Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Ce tournopage est réalisé par Simon Martin, au micro Pierre-Alain Labénard, pour vous parler aujourd'hui des accords Bloom-Burns. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est exsangue, tout est à reconstruire. Signé le 29 mai 1946 par Léon Blum, représentant le gouvernement français, mais négocié par Jean Monnet, signé donc avec Léon Blum et James Burns, secrétaire d'État des États-Unis, ces accords franco-américains ont permis de liquider une partie de la dette française envers les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et donc à 2 milliards de dollars. Les accords Blum-Burns, c'est la face cachée du plan Marshall. Il faut savoir qu'à cette époque, le texte de ces accords, comme de nombreux autres, est resté méconnu du public. Pour preuve, lorsque j'ai interrogé l'apostrophe, la médiathèque de Chartres, pour savoir si elle disposait de documents sur ce sujet, elle m'a répondu, c'était en juillet 2022, qu'elle ne disposait d'aucun document portant sur ce sujet précis. Nos livres sur l'économie française après la Deuxième Guerre mondiale et sur l'histoire du cinéma français n'en parlent pas ou très brièvement, ajoutant les références de quelques livres traitant le plus du sujet dans ses collections, mais seulement sur une ou deux pages. Donc, sujet pas ou peu traité, et puis pas très connu, je pense. Ces accords n'ont pas laissé un souvenir impérissable, semble-t-il. Éric Branca, dans un essai « L'ami américain Washington contre De Gaulle, 1940-1969 », édité chez Perrin, dans le chapitre intitulé « Les arrières-cuisines de Jean Monnet », eh bien Éric Branca, je le cite, que les Européens, plan Marshall oblige, n'ont pas grand-chose à refuser à leurs bienfaiteurs d'outre-Atlantique, du style pour les satisfaire, s'auto-dessaisir de leur souveraineté économique et même de leur identité culturelle. Il va être question beaucoup d'identité culturelle dans cette émission. Je le cite encore, ces accords ont notamment imposé à la France de projeter sur ses écrans, des salles de cinéma naturellement, une majorité de films américains, à savoir 4 productions françaises pour 9 américaines importées sans droit de douane. On comprend que ces screen quotas, ces quotas d'écran, aient rendu furieuses les professions du cinéma, jetant un grand nombre d'artistes dans les bras du Parti communiste que les États-Unis prétendaient combattre. Je cite toujours Éric Branca. Le cinéma était une source majeure de distraction, notamment au lendemain de la guerre. Une anecdote, au cinéma, après la guerre, une minute devait être réservée chaque semaine dans les actualités pour vanter les mérites de l'aide américaine à laquelle devaient être consacrés au minimum 3 longs métrages mensuels. Alors, dans quel contexte intellectuel ces accords ont-ils été signés ? Dans les milieux cinématographiques, il y avait une volonté, au sortir de la guerre, de retrouver une identité. Je vous rappelle que le cinéma français était le premier du monde au début du XXe siècle. Hollywood n'est né que pendant la Première Guerre mondiale. Volonté de retrouver une identité, ce qui a conduit à l'époque à une forte valorisation des cinéastes restés en France pendant l'occupation, un choix assimilé à la résistance, par opposition à ceux qui ont fui le pays pour poursuivre leur carrière aux États-Unis, sont notamment visés Julien Duvivier, René Clair, Jean Renoir sont quand même des grands noms, traités de nouveaux collaborateurs. Et d'ailleurs, la critique a reçu tièdement les films de ces derniers, certains pensant y voir l'appauvrissement de style de ces cinéastes passés par la moulinette des règles de production américaines. Mais il y avait aussi, et c'est contradictoire, la crainte de voir des talents français rester là-bas ou attirés par Hollywood. Alors, quel est le contenu des accords Bloom-Burns ? Alors, il y a un volet purement économique qui concerne la flotte marchande. Je passerai rapidement. Dans ces accords, il était question d'acquisition par la France de 75 Liberty Ships. Je reprends l'expression parce qu'elle est, elle figure ainsi dans ces accords rédigés en français, qui désignent les quelques 75 donc, bateaux qui, sur les 2710 cargos construits aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la demande et sous l'impulsion du président Roosevelt, qui avait déclaré durant l'été 40 et affirmé sa volonté d'être que son pays devienne l'arsenal du monde libre. Pour le cinéma, ces accords réservent 4 semaines sur 13 aux films français, le reste naturellement, à contrario, pour les films américains, soit une capacité pour les films français de 48 films par an. C'est une concession qui est faite aux Américains, mais c'est la contrepartie des aides. Hein, donc, voilà. Alors, c'est un retentissement immédiat à l'époque, et les réalisateurs tels que Marcel Carné, André Blanchard, Jacques Becker ou le scénariste Pierre Laroche ont dénoncé un bradage du cinéma français. Ils ont été suivis d'ailleurs par le syndicat français des producteurs de films ainsi que par la Fédération nationale du spectacle CGT. Cette contestation des accords culmine avec la grande manifestation du 4 janvier 1948 qui rassembla bien au-delà du milieu syndical, avec les vedettes du moment, notamment Jean Marais, Simone Signoret. C'est l'époque où les grands acteurs s'impliquent dans la vie politique du pays. Néanmoins, il y a une pression, enfin une pression qui reste amicale, parce qu'on est quand même, très dépendant. Le gouvernement français obtient du gouvernement américain pour 4 ans, 4 semaines supplémentaires d'exclusivité par an, hein, pour 4 ans, ainsi qu'un contingentement d'au maximum 121 films américains par an. Et c'est donc la révision des accords Bloom-Burns du 23 septembre 1948. Alors, ce mouvement a entraîné la création d'un fonds de soutien à l'industrie cinématographique qui a été abondé par une taxe de 10,9% sur le prix de tous les billets de cinéma. Et par ailleurs, donc ça n'a pas eu que des effets négatifs, tout ça, il y a eu la création du CNC, du Centre National de la Cinématographie, qui est devenu le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, avec mission principale de protéger la création cinématographique française. Et donc après le cinéma, il y a la télévision, bien sûr, hein, tout ça, ça s'est décliné comme ça, ça a eu des conséquences. Il ne reste pas moins que dans le monde du cinéma, qui, comme vous le savez, est marqué idéologiquement, ces accords Bloom-Burns ont été un moyen pour les États-Unis de diffuser le mode de vie américain à la population française et de favoriser l'industrie cinématographique hollywoodienne. Alors ça, on ne peut pas évidemment contredire cette réflexion quand on voit aujourd'hui l'état, l'offre de cinéma. Il suffit de passer devant un multiplex, de voir les titres qui sont proposés ou de regarder les films qui sont diffusés à la télévision. Et puis, la grande fête du cinéma, c'est Cannes. Et Cannes, c'est Hollywood qui débarque pendant quelques jours. Donc ça, c'est indéniable. Alors, cela dit, ces accords Bloom-Burns, si vous voulez, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. La France était défaite, elle était à reconstruire, elle était exsangue. Et il y a eu, à côté des accords culturels, économiques, et donc Éric Branca, dans L'Ami américain, le révèle aussi. Il y a eu des protocoles secrets, du nom de code de totem, obligeant les services de renseignement français à pratiquer un échange, à sens unique évidemment, systématique d'informations avec leurs homologues américains. C'est ainsi qu'après la guerre, Paris est devenue la principale base de la CIA en Europe. Il faut le savoir. Savoir pourquoi nous en sommes là. Avait-on le choix, on pourra disserter sur le sujet. Je laisse tout ça à votre réflexion, mais la France était, je vous l'ai dit, très affaiblie, donc soumise à son prêteur principal. Et donc, ces accords, mai et septembre 48, 40, oui, 46 et 48, et le général de Gaulle avait quitté le pouvoir hein, depuis janvier 46, donc. Notre pays a descendu des marches à cette époque, et puis après, quand il est revenu, il est revenu et il est reparti en 1969, mais ça, c'est une autre histoire, et il a continué à descendre des marches. Mais c'est vrai que c'était un défenseur de notre identité. Voilà. Voilà pour ces accords Bloom-Burns. J'espère vous avoir apporté quelque chose. Tout cela tourne autour du plan Marshall, le plan Marshall qui a été un vaste plan d'aide, mais avec des prêts hein, qu'il a fallu rembourser, mais qui ont impacté notre souveraineté. Il faut savoir qu'il y a une contrepartie, évidemment, à tout cela. Je vous remercie de votre attention, chers auditeurs, et je vous souhaite une bonne continuation, et j'ose espérer que vous retrouverez bientôt Tournepage, et surtout que vous n'abandonnez pas notre radio, l'écoute de notre radio. Restez avec nous. Merci. Thank you.